On faisait ça dans la cabana, et qui avait deux valves. Mm-hmm. Ça faisait arriver mm-hmm. Bon, on va le prendre avec un conseil. Alors, il faut d'abord apprendre le sens du mot, il y a plusieurs sens, et on aura à les utiliser dans l'étude. Alors, le premier sens de kavana, c'est une intention. La racine, c'est l'echaven. Je vous mets devant, mais il y en a un seul. L'echaven, ça veut dire diriger, se diriger vers l'echaven, diriger. Vous avez un mot que vous allez déjà apprendre aujourd'hui, qui est très utilisé à partir de cette racine, c'est un kivun. Kivun, ça veut dire
direction.
Direction. Oui. Alors, echaven, ça veut dire diriger quelqu'un. On emploiera ce terme pour dire aussi se diriger, être tendu vers. Ne confondez pas en français tension avec intention, ça ne s'écrit pas de la même manière. Okay. Mais l'idée est très voisine. On est tendu vers. Alors, le premier sens, une kavana, c'est une intention. Donnez-moi un mot analogue pour dire aussi une intention. Si vous connaissez.
En hébreu.
En hébreu. Bon, c'est le mot de mahashava, qui signifie la pensée, mais qui signifie aussi une intention de pensée. Mahashava.
Mahashava.
Ça, c'est ça, ok. La racine, c'est la chose. Donnez-moi un mot de cette racine que vous connaissez sûrement.
Rocher,
ça veut dire
penser.
Rachou, ça veut dire important. Comment ça se relie? Comment ça se relie important avec penser? Qu'est-ce que tu dis? Un mot, ça c'est une phrase. Bon, je voudrais passer par le... Vous connaissez le mot français pondérable?
Oui.
Pondéré, réfléchi. Pondérable qui a du poids. Vous voyez comment ça se trouve? Alors, par pondérable, vous avez le sens de l'importance. Ça veut dire quelque chose qu'il est important d'y penser. C'est du patawet, mon père, vous connaissez. Alors, c'est hachou. C'est quelque chose qu'il y a à penser, à réfléchir. Donc, n'importe quoi. Bon, mais c'est notre mot que je vous cherche. Comment on dit hein, le calcul en hébreu? Cheshbon. Oui, ça veut dire. Comment on dit un... Non. On irait trop loin. Comment on dit une machine à calculer?
Marcher.
Marcher. D'accord. Et comment on dit le frigidaire?
Quoi?
Le frigidaire. Alors, revenons donc là. Non, parce que tant pour le Mechachev, Marchev, que le Mekarer, Makler, on fait la même erreur.
On met tout
au
frigo.
Bien. Alors, on revient au premier sens du mot Kavana. C'est une intention avec le sens d'une direction de pensée. Ça va jusque-là? Nous avons un deuxième sens, c'est l'atmosphère affective de l'intention, c'est l'attention. Prêtez attention à ce à quoi on pense. Bechavana, avec intention dans le sens de faire attention à. C'est clair? Ne vous embrouillez pas avec tous ces mots en français, tension, intention, attention. C'est des niveaux de sens différents de kavana.
Comment l'attention?
Ben,
l'attention.
Attention. Kavana aussi. Par exemple, je peux agir, parler, sans faire attention à ce que je dis. Ça veut dire c'est sans kavana. C'est pas intentionnellement parce qu'il n'y a pas eu d'attention. C'est clair? Alors, se rattache à ce deuxième sens de attention, le sens de ferveur. Lorsque l'attention est motivée, engagée, ça devient de la ferveur. Alors c'est finalement le sens qu'on va retenir dans le mot de kavana, dans le sens le plus général, surtout après le chassidisme. Les chassidim parlent beaucoup de l'importance de la kavana dans les mitzvot. Ça dérive du premier sens, que nous étudierons dans la Gemara, qu'on va voir déjà ce matin pour notre étude. Ça veut dire que lorsque je fais attention à ce que je fais, j'authentifie ce que je fais, sinon j'ai rien fait. Si je dis un mot sans même prêter attention à ce que je dis, j'ai pas dit un mot, j'ai fait du bruit avec la bouche. Okay? Par conséquent, un acte sans kavana est dénaturé. Okay? Si je fais quelque chose de machinalement, eh bien, finalement, c'est une mécanique d'habitude qui agit et pas moi. C'est clair? Bon. Alors, il y a ici deux niveaux différents, et la chassidut a gardé le sens le plus général, je vais vous expliquer plus en détail. Une kavana authentique, c'est quand je comprends ce que je fais. Pas seulement, qu'est-ce que ça veut dire faire attention? Ça veut dire, premièrement, assister à ce que je fais, je suis avec, je suis présent dans ce que je fais, mais au niveau intellectuel, ça veut dire je comprends ce que je fais. Vous y êtes ? Ça va très vite, ça va devenir très difficile de comprendre vraiment ce qu'on fait. Alors, il y a une tolérance qui va être acceptée, tolérée, qu'il suffira de la kavana de ferveur, d'un certain engagement de ferveur, qui consiste à faire ce que je fais avec attention, même si je ne comprends pas ce que je fais, la qualité affective de la ferveur remplaçant, étant un peu ersatz, de l'intention de penser premier sens. Je suis arrivé à vous expliquer ça ? Vous avez bien compris ? Alors, ne vous trompez pas dans l'emploi de ce mot. De façon très générale, on demandera la kavana dans l'acte. Ça veut dire faire attention et agir avec ferveur. Et c'est une catégorie, je crois que le mot de ferveur correspond assez bien à ce que je veux dire en hébreu, une catégorie que vous trouvez extrêmement importante dans l'enseignement de la chassidoute. De la ferveur avant toute chose, qui disait ça en littérature française, je crois. André Gide. Et je reviens en Israël. Mais ça, c'est un sens important, mais un peu substitut de kavana dans le premier sens, c'est-à-dire la lucidité de faire attention à ce que l'on fait en comprenant ce que l'on fait. C'est plus haut. Alors, comme ce plus haut est trop difficile, on va réclamer que le pas plus bas, parce que c'est aussi important, la ferveur au niveau... c'est un peu romantique, mais enfin, il y a un peu de ça. Dans le chassidisme, il y a beaucoup de romantisme. Il faut se méfier du romantisme, il y a un âge pour ça. Si on reste trop longtemps dans l'âge romantique, on risque de basculer dans la robe antique en deux mots. 17-18 ans, c'est permis, c'est même recommandé d'être romantique. Mais après, un romantique retardé, c'est dangereux. Bon, comment est-ce que vous dites ?
Un jour, vous avez dit que le poète, c'est celui qui écrit les poèmes.
Oui, j'ai dit poète, je ne sais comment dire. C'est-à-dire, on lui pardonne d'être romantique puisqu'il est poète. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Vous avez étudié le romantisme, ce que c'est ? Bon, c'est une expérience qu'il faut avoir, mais si on s'installe dedans, c'est très dangereux. Ça bascule dans la psychose, dans la névrose, dans la psychose, dans la mélancolie, le spleen. Les seuls thèmes poétiques étant la nuit, la mort. Vous connaissez le romantisme. C'est ténébreux. Mais il faut passer par là, d'avoir au moins une fois dans sa vie écrit un poème sur le clair de lune. Bon, mais une fois, pas plus. Ça va jusque là. Alors, je reviens. Méfiez-vous de cela. Très souvent, un romantisme attardé se fait prendre pour de la mystique, c'est à propos de ça que vous en avez parlé d'ailleurs, et ça c'est une affaire pour psychologue, c'est pas une affaire pour rabbin. Bon, je reviens au problème. Nous avons ça y est, t'as compris. Bon, nous avons donc trois niveaux de sens, mais dont deux sont importants: l'intention, l'attention, la ferveur. Attention et ferveur, ça va. Vous avez bien compris ? Bon. Nous verrons à la nuit d'étude d'autres sens de ce mot de kavana, mais pour le moment, c'est ce qui est important. Alors, je reprends maintenant la définition du Kriyat Shema comme rite. La définition du Kriyat Shema comme rite, c'est un rite de témoignage où j'atteste que je reçois la souveraineté de la Torah et de celui qui a donné la Torah. Ça s'appelle, en hébreu, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà appris,
mais on va le réapprendre. Kabbalah. Oh. Malchut. Vous l'avez appris ? Shamaï.
Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer tous les mots. Par exemple, pourquoi pour dire Dieu on dit le ciel ? Ça fait bizarre. Ça fait païen. Et pourtant, ça fait partie des expressions qu'on emploie, donc il faudra un jour qu'on étudie cela. Si j'oublie, et si un jour, par association d'idées, on peut en parler, j'ouvrirai une parenthèse. Kabbalah, le fait de recevoir sur soi, ol, le joug, littéralement, c'est un mot en français qui est un peu trop abusé, en hébreu, ça a un sens beaucoup plus fin, ol, ce qui est al, ce qui est sûr, la supériorité. C'est clair ? Ol, malchut shamayim, de la souveraineté divine. Alors c'est un rite par lequel chaque Israël, le soir et le matin, comme on le verra dans le rite, reçoit sur lui, accepte, réaccepte, renouvelle la souveraineté de l'unité des valeurs comme directrice du comportement. Voilà l'essentiel. On a mis 3 mois pour arriver à cette phrase, mais je crois qu'on a écrit. Okay. Quel est le principe directeur de la conduite ? L'unité des valeurs. Et c'est une tradition monothéiste très particulière, le monothéisme hébreu, qui n'est à part Israël de toutes les autres traditions. Dans toutes les autres traditions, il y a une valeur en particulier qui est érigée comme idéale, et corollairement, les autres sont sacrifiés. Ça ne veut pas dire qu'on ne les connaît pas, mais on s'est orienté sur une valeur en particulier, et vous verrez plus tard, vous pouvez le comprendre déjà par vous-même déjà, que c'est la définition de l'idolâtrie. Extraire une valeur de l'unité des valeurs, l'ériger en idole. Dans le langage moderne, on dit en idéal, ça revient au même. Vous vous rappelez qu'on a étudié une fois ça, l'idée, l'idole, l'idéal. Vous vous rappelez ? Méfiez-vous bien de cela. C'est-à-dire cette fascination d'une valeur en dominante, et on l'a déjà étudié dans le cours à propos de l'histoire d'Abraham, Mida ou Frézé, vous vous rappelez, une valeur hypertrophiée, une valeur exagérée, devient catastrophique. Les mythes des idoles sont des mythes dévastateurs. Et d'autant plus dévastateurs que la valeur qui est à la racine du mythe est une valeur authentique. Mais elle devient néfaste quand elle est isolée de l'unité des valeurs. Si vous avez bien compris cette idée, vous comprenez déjà la base du monothéisme hébreu. Et c'est une affirmation au-delà des valeurs elles-mêmes. C'est, à la limite, j'emploie souvent... dès qu'on commence l'histoire de Jacob, ça reviendra très souvent, c'est surhumain. Parce que l'homme est ainsi fait dans sa nature propre qu'il est plutôt sensible à telle ou telle valeur. Parce que nous sommes distribués en tempéraments différents. C'est clair ? Alors arriver à surmonter l'équation personnelle du tel tempérament partiel pour se hisser au niveau de l'unité des valeurs. Aucune tradition n'y est arrivée. Ça ne veut pas dire qu'intellectuellement, elle ne comprend pas le problème, mais elle y renonce. Parce que c'est surhumain. En particulier, c'est à relier au commandement de l'interdiction des images. Parce que c'est au-delà des images. Puisque chaque idéal partiel peut être imaginé. On peut lui donner une image. Fût-ce une image mentale. Okay, ça revient au même. Mais l'unité des valeurs ne peut pas être imaginée. Tu ne te feras pas d'image. Vous vous rappelez de cela ? Et ça signifie même une image mentale. Donc, et c'est ce principe-là de l'unité des valeurs qui va être la divinité d'Israël. Vous avez bien compris cela ?
Je vais préciser.
Quoi ? J'ai dit plusieurs choses. Quoi ? Oui, je veux dire. Je vais prendre un exemple chez Platon d'ailleurs qui a étudié ce problème et qui finalement est resté au niveau des idées et pas de l'unité au-delà. Il y fait allusion intellectuellement, mais il reste grec. C'est les Hébreux qui sont plus hauts. Vous prenez par exemple ce que nous appelons le cercle. Je crois que je vous l'ai cité une fois. Bon. Premièrement, nous avons une image du cercle, c'est ce qu'on appelle le rond. Okay. Un rond, au niveau de l'expérience de la perception, ce n'est pas encore le cercle vraiment. Parce que si je dessine un rond, bon. Alors, j'ai une idée qu'il s'agit d'un cercle parfait. Mais le rond dessiné n'a rien à voir avec le cercle. Pourquoi ? Parce que dès que j'approche une loupe, eh bien, je vois des petits morceaux de terre, enfin, il y a une épaisseur. Le cercle n'a pas d'épaisseur. Le rond est l'image de l'idée de cercle. Et donc, au niveau de l'idée, j'ai dépassé l'image. Et voilà ce que dit Platon, c'est repris par Bergson. L'idée de cercle n'est pas ronde. Réfléchissez bien à ça. Ça a l'air d'une boutade, mais c'est très important. L'idée de cercle n'est pas ronde. C'est l'image du cercle qui est ronde. L'idée de cercle, c'est une notion. que je comprends par la pensée au-delà de l'image. Tant que je comprends le cercle par l'image du rond, je n'ai pas compris le cercle. Okay? Alors, au niveau de l'idée du cercle, on va être aidé par les définitions mathématiques. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle dans la définition géométrique? C'est le lieu géométrique des points équidistants d'un point pris comme centre. C'est une idée, ce n'est pas une image. Comment, quand ça rentre dans la réalité, ça devient rond? Mais au niveau de l'idée, ce n'est pas rond, c'est une idée. C'est une notion, c'est une signification, une compréhension. Ok? Voilà, vous avez compris? Par exemple, toujours au niveau de la mathématique, cette idée de cercle a un symbole. C'est la lettre pi en grec, qui est égale à 314, 316, etc. Okay? Mais qu'est-ce que symbolise pi? Ça symbolise le rapport entre le rayon et la circonférence. Vous vous rappelez de votre cours de certificat d'études, j'espère. Okay? Alors, l'idée d'un rapport n'a pas de forme. Par conséquent, l'idée du cercle n'est comprise que quand elle est comprise comme idée au-delà de toute image. Très peu en sont déjà capables. Bon, alors ceci dit, j'ai l'image mentale dans l'idée de cercle. Oui, alors il faut encore monter au-delà. Même pas l'image mentale, sinon ça fait une idole. Okay. Bon, retenez, si vous voulez, cette formule, je crois qu'elle est la plus explicative. L'idée de cercle n'est pas ronde. Il y a donc une réalité idéale, intellectuelle, qui est au-delà des images. C'est une notion, une signification. Bon, mais au-delà de la signification elle-même, il y a un niveau d'être absolu de l'unité des valeurs qui n'a pas d'image. Voilà, vous retenez ça au fait qu'effectivement, dans la seule tradition où il n'y a pas d'image, c'est le Dieu d'Israël, la tradition d'Israël. Et on retrouve quelque chose d'analogue dans l'islam, où seule l'image géométrique est permise.
Je vais vous demander, dans l'islam, il y a une unité des valeurs
aussi? Non, il y a une allusion au Dieu d'Abraham, mais qui n'est pas connue comme unité des valeurs. Vous vous rappelez de l'analyse que je vous avais faite? L'identité d'Ishmaël reçoit par hérédité la mitzvah d'Aresset d'Abraham. Okay? Par conséquent, son idéal complémentaire, c'est la mitzvah d'Adin. Par conséquent, il n'y a pas d'unité des valeurs. Il y a allusion au Dieu d'Abraham, on le connaît comme étant le Rahman. Il y a le même mot en arabe et en hébreu. Il y a une petite nuance, mais c'est le même mot. C'est un des plus beaux mots de la langue hébraïque et arabe, d'ailleurs. Rahman, c'est-à-dire le compatissant, le miséricordieux. Vous avez sûrement vu des traductions de textes arabes. Ce terme de miséricordieux vient souvent. C'est-à-dire, c'est l'allusion à la mitat haresed, et la vertu complémentaire qu'il faut réaliser dans le comportement, c'est la mitat hadin. C'est pas l'unité des valeurs. C'est un comportement de digne correctif de la mitzvah d'Aresset. C'est vrai? Ça veut dire que le monothéisme musulman, sémite en général d'ailleurs, refuse l'idolâtrie, la pluralité des dieux, mais n'arrive pas au niveau du monothéisme de l'unité. Ça reste au niveau du monothéisme de l'unicité. Je vais formuler cela par rapport à ta question. Il y a d'autres dieux que Dieu. C'est la formule de l'islam. Okay? Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Okay? C'est le Dieu. Dieu est unique. Qui est-il? Nous savons qu'il est le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire demander à Abraham? C'est tout. Alors, c'est la raison pour laquelle demander à Abraham, c'est-à-dire finalement demander à la Torah. La raison pour laquelle, dans l'islam, vous avez le mot de Allah qui signifie Dieu, et dans l'implication, le seul Dieu qui existe, unicité. Et ça correspond au mot hébreu de Eloha devient Allah en arabe, et on écrit Eloka, okay, vous savez cela. Mais Hachem, le nom Yud-Kevavke, le nom qui désigne celui qui est Dieu, son nom propre, n'est pas commis dans l'islam. Alors disons l'expression Dieu d'Abraham, ça renvoie, ça veut dire, vous apprendrez ça dans le séminaire sur le Kuzari, quand on pousse un théologien musulman à la limite, tout ce que tu sais, tout ce en quoi tu crois, d'où ça vient, il y a demandé aux juifs. À la limite. C'est vrai? De la même manière que vous demandez à un théologien chrétien, il arrive à la même réponse. Vous apprendrez ça plus en détail à propos du cousin. Alors, de quoi je parlais? Oui, de la notion d'unité de valeur. Kabbalah, pour le marque de Shabbat, ça veut dire je reçois sur moi la souveraineté de l'unité des valeurs. Et nous avons vu qu'il y avait un plan. la formulation du premier verset, c'est Kabbalah, Drol, Malchut, Shamaïm, au niveau du plus profond de ma personne elle-même, le Nefesh. Vous vous rappelez de cela? Ensuite, le verset de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, au niveau du Ratzon. Je traduis ou c'est pas la peine? Tout le monde? Très bien. Ensuite, Ve'ayu advarim ha'elei, Asher Anochi Metzavecha, Yom Alevavecha, au niveau de la Mahashava, la pensée. Ensuite, Ve'dibartabam, au niveau de la parole, et ensuite, Ukshartam, au niveau de l'acte. Alors, je vous rappelle au moins le schéma minimum. Que vous avez déjà mis en tableau, et on va un peu approfondir le sens du mot de nefesh. C'est ce que je vous avais annoncé la dernière fois. Alors, je vais mettre ça par cercle concentrique. Le nefesh, c'est le point intérieur de ma personne. Je crois que c'est à propos d'une question de toi. On a parlé de Helek Laramaba, c'était toi, oui. C'est-à-dire le point en moi qui est déjà Israël. Et le point d'insertion de mon identité individuelle, personnelle, au clan Israël. Ce point-là est déjà Israël. Alors c'est à lui que je m'adresse quand je dis Shema Israël, au niveau du monde. Alors le Nefesh est relié au monde extérieur par une première médiation, un premier trait d'union, si vous voulez, qui est le Ratzon. La volonté. Ça veut dire, pour la tradition de la Torah, l'essentiel de la définition d'un sujet comme sujet, que nous appelons en hébreu un nefesh, c'est d'être une volonté. C'est ça qui apparaît d'abord. Avant d'être une pensée. Là, la définition de ces catégories. Ah oui, j'ai oublié de dire le nom de l'histoire. Voilà. La définition de la catégorie de la personne dans la tradition biblique, c'est d'abord que la personne est une volonté. C'est ça qui l'oppose à la chose. La chose est privée de volonté. La personne se définit comme une volonté, et donc autonomie, liberté, responsabilité. Vous suivez? Alors que dans la culture occidentale, vous verrez que l'accent est mis sur la pensée, que la personne est définie comme quelqu'un qui pense. Alors que ça ne veut pas dire que la culture occidentale ne connaît pas cette définition, cette catégorie que la personne c'est quelqu'un qui veut. Mais la dominante a été mise sur la pensée. Ça vous donnera une clé qui vous fera comprendre beaucoup de choses dans la différence entre la sensibilité hébraïque, judéenne, juive, et la sensibilité gréco-romaine à la limite occidentale. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, prenez Descartes, qui est un des plus grands philosophes que l'humanité ait connu. C'est un jour, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, on fera un peu de rachis sur Descartes. Okay. Et Descartes envisage toutes les hypothèses, comment définir, donner une définition de l'homme, de telle sorte d'être certain de son existence. Et alors finalement, il arrive à cette formule, je pense, donc je suis. Qu'est-ce qui me fait être sûr que je suis? C'est que je pense. C'est clair? Et il ajoute d'ailleurs, il a écrit en latin, c'est-à-dire, je suis res cogitans, une chose qui pense. Vous vous rappelez de cela? Ça ne veut pas dire que Descartes ne sait pas qu'un homme c'est un quelqu'un, c'est pas une chose. Vous vous rappelez, mami, hein? Il sait que l'homme c'est un quelqu'un. Mais finalement, il définit la personne par une de ses fonctions qui est la pensée, et qui, comme fonction, est impersonnelle. Le celui qui pense, ça c'est l'être en tant que volonté. C'est clair?
Comment pour coller par rapport
à l'utilisation
du Chaim et
Nadav? Ben c'est cela. J'arrive, très bien. Je crois que je vous l'ai indiqué, mais de toutes les façons, tout cela, vous l'étudierez très en détail avec Benoît Gross dans votre séminaire sur le Kuzari, qui aura lieu probablement en mars. Parce qu'en février, il n'est pas en Israël. Autrement, vous l'auriez eu déjà en février. Ah non, en février, vous n'êtes pas. Autrement, vous l'auriez déjà eu en janvier. Mais, vous vous rappelez que lorsqu'on a atteint, très très rapidement d'ailleurs, si je me souviens bien, hein, je vous aurai une idée du jeune, je vais vous dire, la définition de l'homme d'après la Torah, vous vous rappelez qu'il y a deux hypothèses possibles, le vivant pensant ou le vivant parlant. Okay? Et alors là, je vous avais expliqué que la tradition juive connaît la définition possible du vivant pensant. Mais à condition d'abord d'affirmer la définition du vivant par Hayamabe. Pourquoi ? Eh bien, ce que j'ai ajouté à l'époque, en tout cas c'est comme ça que je l'ai expérimenté moi-même dans mes propres études, c'est qu'il a fallu arriver au temps moderne pour découvrir cela. Mais Descartes l'avait indiqué, que la pensée, ça peut être impersonnel. Alors que la parole, c'est vraiment quelqu'un qui parle. En disant le vivant parlant, je désigne qu'il y a une personne, un quelqu'un, le sujet. Alors qu'en disant le vivant pensant, c'est pas encore suffisamment clair, c'est pas encore suffisamment évident. La parole peut être impersonnelle. C'est clair ? Je vous donnais deux formules de théologie qui montrent la différence du point de départ de la tradition juive et du point de départ de la tradition chrétienne. Et le point de départ de la tradition juive, et c'est une formule qui est très utilisée dans les prières, c'est que Dieu a créé le monde par sa parole. Quelle que soit la manière dont je vais mettre en évidence les implications de cette formule, par sa parole, il suffit qu'il parle et ça existe. Il y a énormément d'implications dans cette formule, mais il y en a une qui concerne notre sujet. Dire que Dieu a créé le monde par sa parole, ça veut dire que Dieu c'est quelqu'un qui parle. Puisqu'il parle, c'est que quelqu'un. Vous suivez ? Un Dieu qui ne parle pas, ça ne m'intéresse pas. C'est l'idée de Dieu. L'idée de Dieu est muette. C'est clair ? Bon. Lorsque la tradition va nous dire « c'est par sa parole que Dieu a créé le monde », ça sous-entend cela, premièrement, qu'il y a un quelqu'un. Alors quand c'est reporté à la définition de l'homme, comme vivant parlant, ça veut dire la dignité de l'homme, c'est qu'il y a une personne qui parle. Encore une fois, je reviens sur cette analyse. Ça pense, mais je parle. Alors bien sûr, je vais dire « je pense ». Mais moi qui suis capable de parole, je pense. Alors ma pensée est personnelle. Parce que je suis capable de parole. Si je n'étais pas capable de parole, ma pensée serait impersonnelle. C'est clair ? Vous voyez, à partir de Descartes, on a dit cela. Que Descartes a voulu dire, il a voulu dire « je pense » comme on dit, comme si on disait « ça pense en moi ». De la même manière, comme quand je dis « il pleut », il n'y a personne qui pleut, ça pleut. Okay ? C'est clair ? Bon. Encore une fois, je voudrais terminer ça. Ça ne veut pas dire que Descartes ne sait pas que l'homme, c'est quelqu'un. Mais il n'est pas capable. Enfin, il n'est pas capable. Ce n'est pas son option. Son option, c'est de définir l'identité humaine par la pensée. Alors, il est complètement en dehors de l'univers de la prophétie, bien que, personnellement, il était chrétien pieux, ce qu'on connaît dans son histoire. Bon, mais comme je l'ai dit souvent... Et l'homme occidental s'est habitué à cette espèce de schizophrénie, division de la personnalité en deux, une au laboratoire et l'autre à l'oratoire. Vous vous rappelez de ça ? Et c'est Pascal qui lui a objecté, on rappelle très bien la formule de Pascal objectant à Descartes, « j'ai un cœur, moi ». Ça, c'est l'homme comme volonté, opposé à l'homme comme intelligence. Et Pascal était supérieurement intelligent, c'est un très grand philosophe lui aussi. Peut-être certains pourraient dire aussi grand ou plus grand que Descartes, mais je pense personnellement que Descartes était plus grand, sinon. Et Pascal, lui, vous vous rappelez du thème habituel dans vos études secondaires, l'esprit de mathématiques et l'esprit de finesse. Vous vous rappelez de ça ? L'esprit de géométrie, on vous dit. Bon, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. L'esprit de géométrie, c'est Descartes, la pensée impersonnelle. L'esprit de finesse, c'est Pascal, le quelqu'un qui pense dedans, la parole opposée à la pensée. Ça va jusqu'à là, tu comprends ? Okay. Attends, il y avait Claire qui avait demandé quelque chose.
Je ne sais pas en quelle langue est écrit le texte de base. C'est Saint Jean qui...
De Descartes ?
Non, lorsque vous avez commencé une comparaison...
Ah oui, j'ai pas fini justement. J'y arrive, heureusement. Alors pose ta question. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, j'ai pas fini l'autre volet. La tradition juive, c'est au début, il y a la parole. Alors que dans les textes de base des évangiles, au début, il y a le logos. Or, le logos, les chrétiens traduisent par le verbe. Okay ? Mais c'est faux, très exactement. Logos, c'est la raison. Je veux dire une chose, c'est que au niveau du grec, le mot de logos impliquait quand même les deux sens. Mais ces deux sens ont été distingués en latin. Et finalement, le latin n'a gardé que le sens de la raison, hein, qui est impersonnel. Je vais vous dire ça très rapidement, on n'est pas en Ulpan gréco-latin. En hébreu, en grec, logos, ça peut vouloir dire le verbe, mais si c'est un hébreu qui parle, hein, donc ce sens-là. Mais ça veut dire la raison. Vous voyez, le mot de logique vient du mot logos. Okay? Où chaque terme qui se termine en logie, ça veut dire science de. Okay? Et en hébreu, en latin, le sens de logos a été divisé en deux mots latins, ratio et oratio. Ratio, ça veut dire la raison, et oratio, ça veut dire le discours. La division. Et finalement, la mentalité latine est une mentalité beaucoup plus impersonnelle encore que la mentalité grecque. Je ne sais plus qui disait, quel grand historien en parlant des Romains, c'était un peuple de commerçants et de comptables. Réor, compter. Hein. La raison, c'est la raison avec laquelle on fait des comptes. Là encore, en français, vous avez deux mots, compte. Le compte qu'on raconte et le compte qu'on compte. Bon, allez, je reviens à vous. Un autre problème.
Moi, je voulais dire que la parole, est-ce que ce n'est pas aussi une fonction ? Est-ce que c'est tellement propre à l'homme ?
Attends. Là, il y a un problème pour lui-même. Alors, quand je dis la parole, c'est le mot que j'emploie pour dire quelqu'un qui parle. Maintenant, d'autre part, il y a le langage en général. Et énormément de comportements par signes peuvent être dits langage. Ça ne veut pas dire qu'on parle. On échange des signes, c'est différent.
Mais c'est pas propre à l'homme ?
Non, les signes, c'est pas propre à l'homme, mais la parole, oui. Le langage, dans le sens des signes, qui signale quelque chose, ça peut être aussi impersonnel. Par exemple, vous avez chez les abeilles, vous avez un certain comportement qui sont des rondes pour une abeille qui a trouvé un champ de fleurs X, eh bien revient et puis fait une sorte de ronde. Et puis pour chaque catégorie de fleurs, il y a une ronde différente. Les autres abeilles reçoivent le signalement et c'est un langage, mais ce n'est pas une parole. L'abeille ne dit rien à l'autre abeille. Il y a un comportement physico-chimique qui se déclenche suivant l'odeur du pollen qui fait que ça danse comme ça plutôt qu'autrement. Vous avez entendu parler du réflexe de Pavlov, des réflexes conditionnés. Bon, c'est des mécanismes impersonnels qui font un langage, mais ce n'est pas une parole. Ça veut dire qu'il n'y a pas le quelqu'un derrière. Il y a les instincts de l'espèce qui sont impersonnels. Vous avez compris le problème ? Réfléchissez bien à ça. Ça ne veut pas dire que l'animal n'est pas capable de signes, que l'animal n'est pas capable de langage, mais en tout cas n'est pas capable de parole. Voilà la différence. Qu'est-ce qu'il y a derrière parole ? Dans mon vocabulaire, il y a quelqu'un. L'individu n'est pas seulement l'individu dans l'espèce, il est une personne pour lui-même. Vous vous rappellerez bien de cela. Bon. Alors, je reviens donc à la première définition qui me semble très importante pour la tradition juive, pour la tradition de la Bible. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle en philosophie un peu d'anthropologie, c'est-à-dire les structures de l'homme. Eh bien, le nefesh, la personne, s'exprime d'abord comme capacité de volonté. Cette capacité de volonté a à son service trois fonctions. La pensée, la parole et l'acte. Ça va jusque-là ? Et retenez l'idée essentielle. C'est qu'on va exprimer le nefesh de quelqu'un, le sujet de quelqu'un, le quelqu'un du quelqu'un, d'abord au niveau de sa volonté. Et ça veut dire, en élargissant la notion, que l'homme est désigné en tant que sujet, en tant que personne, d'abord comme un sujet moral. Parce que volonté appelle jugement du comportement. Voilà, j'accuse les différences pour que vous vous habituiez à focaliser, à polariser la différence d'attitude culturelle, spirituelle, intellectuelle entre l'univers gréco-romain et l'univers hébraïque. Ça ne veut pas dire que l'hébreu n'est pas capable de comprendre la fonction de la pensée, il la maîtrise. Ça ne veut pas dire que le grec n'est pas capable d'envisager la fonction de volonté, il la connaît. Mais l'un s'est défini surtout la personne, c'est-à-dire la pensée. L'autre s'est défini surtout la personne, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire la volonté. D'un côté, il y a l'éthique, de l'autre côté, il y a l'esthétique. Vous comprenez la différence, okay ? Lequel est l'esthétique, le grec ou le juif ? Très bien. Ben, on peut être un juif hellénisant. Attends, alors, ça, on est gêné par les mots. Ça ne veut pas dire que le juif n'a pas son propre univers de beauté, mais ramener toutes les valeurs à l'esthétique, c'est l'idolâtrie de l'esthétique. Est-ce que c'est clair ? Je vais vous achever la formule et puis vous poserez les questions. C'est un thème pour lui-même qui est extrêmement important. La conscience grecque est capable d'envisager même l'hypothèse hébraïque, mais elle l'a repoussée comme invraisemblable, comme irréalisable. Et elle s'est finalement polarisée, choisie. C'est extrêmement intéressant d'ailleurs de suivre cette évolution dans les premiers âges de la culture grecque, là où les Grecs étaient vraiment Grecs. Et finalement, elle polarise un type de conscience qui est esthétique, contemplative et tragique. Alors, qu'est-ce que c'est que le tragique dans ce problème ? Incapacité de réaliser dans la réalité ce qu'on a compris dans la vérité. C'est ça le tragique. Alors, voilà, vous remarquez à quel point cette dimension tragique qui vient de la Grèce antique a envahi la littérature occidentale. La littérature occidentale est devenue de plus en plus tragique. Et pour arriver à la littérature de l'absurde, avec comme illustration principale l'existentialisme. C'est clair, vous voyez ? Une conscience qui est en dominante, sensible à l'esthétique, donc contemplative et non pas active. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit de contempler. Et puis, le résultat, c'est tragique. Alors, on est à la recherche d'une espérance. Et on la trouve chez les Juifs. Alors, on dit, ton espérance, mais pas toi. Donc, ça y est, c'est clair. Et puis, c'est comme ça que le Grec devient chrétien. Parce qu'il est anti-juif. Alors que la conscience hébraïque, elle est d'emblée éthique, elle est sensible à résoudre le problème moral. C'est son affaire. Okay. L'essentiel de la prophétie, c'est ça. L'objectif de la prophétie, c'est pas de nous faire faire des mathématiques, ça veut pas dire que le prophète n'est pas capable de mathématiques, c'est de faire de la morale, de résoudre le problème moral. Vous rappelez de cela, on en a parlé à propos de Hanouka un peu. Okay. Et donc, c'est une conscience éthique, active, et tout le contraire de tragique. Comme on dirait ça en français, significatif, ce terme n'existe pas en français. Le contraire de tragique, pour donner une équivalence, optimiste. Si vous voyez un juif triste, il n'est pas normal. Si vous voyez un grec heureux, c'est qu'il n'est pas normal. Imaginez un philosophe bon vivant, c'est pas sérieux. Un philosophe doit être angoissé. C'est
clair. Alors, qu'est-ce que... Est-ce que vous pouvez reprendre comment est-ce qu'on passe de la volonté au jugement du contentement ?
Oui. La volonté, ça implique une autonomie, donc une responsabilité. C'est la catégorie de liberté qui est là. La volonté est libre. Ce qu'il y a de libre en vous, c'est la volonté. Je peux vouloir tout. Sinon, j'ai pas ma volonté s'est évanouie. C'est-à-dire, la volonté n'est là que lorsqu'elle est absolue. Effectivement, je peux vouloir tout, même la lune. Pouvoir, c'est autre chose. Mais vouloir, le vouloir doit être infini. Et il est infini. Par conséquent, l'intimité du vouloir, c'est la liberté. Ce qu'il y a de libre en nous, c'est le vouloir. Et le problème, c'est d'arriver à gagner à cette liberté à partir du vouloir tous les autres comportements, à les libérer. Tous les autres comportements sont conditionnés. Ce qui n'est absolument pas conditionné, c'est le vouloir. Le commencement de la volonté, c'est la volonté elle-même. Si la volonté a une raison, elle n'est pas entière. La volonté doit être absolument autonome. C'est ce qu'on appelle l'acte libre, à différencier un peu de l'acte gratuit, mais ça se recoupe un peu. Alors vous allez vous-même, de par votre expérience, nous dire, il n'y a que deux actes libres absolus, où le vouloir commence par lui-même. Rappelez-vous, on a étudié une fois une Mishnah. Un amour qui dépend d'une condition. Vous rappelez de ça ? Il y a un seul acte libre qui est deux. C'est aimer ou haïr. Vous comprenez ? C'est le fonctionnement de la volonté à la chaîne absolue. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on va parler de Kabbalah Shem Malchut Shamayim sur la volonté, qu'est-ce que dit le texte ? Ve'ahavta et tout ça. C'est clair. Tout comportement, je peux lui assigner, mettre en évidence des motivations, des motifs ou des mobiles. Des motifs. C'est quand c'est une raison intellectuelle. Le mobile, c'est quand c'est un sentiment qui agit. Okay. Motif ou mobile, mais finalement, c'est la motivation du comportement. Alors, ça veut dire que le comportement a été conditionné par un motif ou par un mobile, que l'acte n'était pas entièrement libre. C'est clair ? Le seul acte libre, c'est où la volonté est le commencement d'elle-même. Il n'y a pas une cause, il n'y a pas une raison, il n'y a pas un motif, il n'y a pas un mobile. Il y a un seul acte de ce genre dans le comportement humain, c'est aimer. Ça veut dire, retenez bien cela, si le comportement de la volonté a un motif, il n'est pas libre. Et donc, il n'est pas encore authentique. Et ailleurs, c'est envers de aimer. L'amour doit être gratuit pour être authentique. Vous vous rappelez de cela? Bon, et en face, il y a ce qu'on appelle la haine gratuite. Et la haine gratuite, je vais vous l'expliquer dans les mêmes catégories, c'est haïr quelqu'un d'autre uniquement parce qu'il est l'autre. C'est ça la haine gratuite. Parce qu'il est l'autre, c'est-à-dire le rival. Et plus il ressemble, et plus il est rival. Vous avez compris le problème? Eh bien, c'est la même raison que pour l'amour. L'amour gratuit, c'est aimer l'autre parce qu'il est l'autre. Mais là, c'est l'inverse. Et plus il ne ressemble pas, plus on l'aime. Bon. Qu'est-ce que tu veux?
Il n'y a pas de raison?
Non.
À l'amour?
Non, à l'amour vrai. Alors, on passe par un stade, parce que nous commençons toujours par être imparfaits, on passe par un stade où il y a des raisons. Mais c'est quand les raisons se sont évanouies, c'était des béquilles, des échafaudages. Okay? Alors qu'on arrive à l'amour vrai. Sinon, il y a autre chose qui ressemble à l'amour. Il y a le désir, il y a le, je sais pas comment dire, l'appétit de jouissance. Par exemple, j'aime un bon steak. Vous savez, c'est de l'amour.
C'est
l'éthique absolue. Je sais très bien, en tout cas pour la quitte, nous avons parlé tout à l'heure au cours précédent, ça ressemble à ce que je vous ai dit, la pensée, non, je vous ai dit à vous maintenant, la pensée au-delà des images. Tant qu'une pensée s'appuie sur une image, c'est pas de la pensée, c'est de l'imagination. Je vous aurai ici un problème qui va vous éclairer. De la même manière que nous sommes des quasi-personnes, et il y a des cas particuliers, des gens uniques, qu'on appelle les uniques, à eux tout seuls, ils sont une personne. De la manière nous sommes des êtres quasi-pensants, quasi-libres, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quasi-pensant? La plupart des gens raisonnent avec des images, et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à se comprendre parce qu'ils n'ont pas les mêmes images. S'ils raisonnaient au niveau des idées, ils se comprendraient. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez compris? D'ailleurs, une règle que j'ai appris de mes maîtres, employer toujours le même mot avec le même sens. C'est la condition du dialogue. Un dialogue est impossible si chaque fois que vous employez un mot, vous lui avez changé d'image. Alors on ne sait plus de quoi on parle. C'est clair?
Comment se faire comprendre sans image?
Ma?
Comment se faire comprendre sans image?
On ne peut qu'à quelqu'un qui comprend sans image. C'est pourquoi le véritable dialogue est entre des gens qui se comprennent. Enfin, j'ai mal parlé, mais vous comprenez. Il y a des conditions de la réciprocité. Et alors, on peut celui qui pense sans image peut se faire comprendre avec celui qui pense avec des images. Il faut avoir la lucidité de savoir quelle image l'autre emploie. Sinon, vous lui parlez à côté. Okay? Est-ce que c'est clair? Il faut parler à chacun avec son langage. Parce que, regardez des mots aussi simples que les grands slogans politiques. Pain, paix, liberté. Bon, c'est au nom de ça que les hommes sont assassinés. Cette idée que la raison est la chose au monde la mieux partagée, le bon sens, tu te rappelles? Okay? Eh bien, comment se fait-il que la raison étant la chose la mieux partagée, les hommes soient divisés à ce point?
Parce qu'ils ne savent pas l'utiliser d'après les cartes.
Comment? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne savent pas l'utiliser? Ça veut dire qu'ils pensent par image. Et chacun a des images différentes. Quand vous allez dire le mot de liberté en régime soviétique ou en régime capitaliste, ça veut dire des choses radicalement différentes.
C'est bien qu'il n'y a pas de communication possible.
Il n'y a pas de communication possible tant qu'on pense avec des images. Parce qu'on pense à travers des mythes.
Et comment...
Oui, eh bien, il faut la cesse de l'étude, arriver à comprendre ce que la langue veut dire. Alors, les gens qui ont étudié ensemble se comprennent. Bon, la Kitabet, vous avez fait le Rashi. Comment Rashi, c'est un midrash important que Rashi dit qu'il arrivera un temps où enfin les goyim pourront dire à Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rashi cite un verset, je déverserai sur eux une langue épurée. Vous vous rappelez de cela? Voilà, c'est exactement ça. Et je crois qu'une des études les plus importantes, qui est la clé même de toute philosophie, sans prendre le terme de philosophie dans le sens engagé, c'est la logique. Et ce qui manque aux générations contemporaines des étudiants, c'est qu'ils n'ont pas fait de logique. De mon temps, en première, ça s'appelait la rhétorique, avant la terminale, en première, eh bien, on avait des exercices de logique, un par jour. Et alors, une fois qu'on a maîtrisé les règles logiques de la raison, alors on peut parler logiquement. Sinon, c'est de la poésie. Je ne sais pas comment vous dire ça. Sinon, c'est brillant, c'est joli. Je me rappelle, moi j'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne, et puis j'étais toujours émerveillé par les professeurs de littérature. Alors, de temps en temps, pour me détendre, j'allais écouter un cours de littérature. C'est extrêmement beau, brillant. Ça vous est arrivé, là, d'écouter un cours de littérature à l'université? Bon. Et à la fin du cours, je demandais aux élèves, enfin, de quoi il a parlé? Alors, je ne sais pas, mais c'était beau. Vous comprenez? De quoi il a parlé? C'est une espèce d'exposé extrêmement brillant. Et finalement, vous dites, on fait le bilan. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a appris? Rien. D'ailleurs, vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est très beau, ça délasse. Comme les souliers qui ont besoin d'être délassés. Tout ça. Et alors, il y a une règle. En tout cas, vous lisez un livre en français, puisque c'est la langue de culture. Puis ça frappe énormément. Alors, il y a une règle pour savoir s'il reste quelque chose. Traduisez en hébreu. S'il reste quelque chose, c'est qu'il y avait quelque chose de dit. Sinon, tout était dans la forme. Vous comprenez ce jeu ? Est-ce que c'est clair ce jeu ? Non ? Ben, vous ferez l'exercice un jour. À partir du moment. Faites-le par vous-même. Vous pensez quelque chose en français. Et alors, il y a une espèce de séduction, d'esthétique du fonctionnement de la langue qui se fait prendre pour la vérité. Essayez de traduire en hébreu. S'il reste quelque chose, c'est que quelque chose avait été dit. Sinon, c'était des mots. Et il y a une science des mots, ça s'appelle la littérature.